On vous rappelle qu'Audrey est portée manquante aujourd'hui dans l'émission l'Open
Mic. Elle n'est pas disparue, elle va bien, elle enregistre un podcast.
Elle est portée manquante.
Dis pas ça, les auditeurs vont s'inquiéter.
Elle va être de retour demain, Pascal CV, qui va me retrouver dans Marceau le midi. Mais merci, Pascal, d'être là. C'est le fun. En ce lundi,
oui.
Ça scrappe un peu ta routine.
Absolument. C'est bizarre comment on est des êtres d'habitude. Hein? Oui. Et pourtant, la spontanéité et le bonheur, on connaît ça quand c'est pas arrangé et planifié. Mais un lundi où tu changes ta routine, t'as l'impression d'être dans une bulle par rapport. Je sais pas pour toi, là, ou toi, c'est tous tes lundis.
En fait, c'est tous les jours de la journée.
Hey, tous les jours de la semaine.
1 degré sur Québec, c'est plein soleil, maximum de 7 pour aujourd'hui. On espère que ça se réchauffe parce que ce matin, il faisait moins 7 puis c'était pas chaud pour la pompe à l'eau. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, minimum de moins 1. Demain, mardi, de la neige, Pascal. 5 cm pour ce qui est de demain avec des rafales à 60 km/h, maximum de plus 1 degré. Donc, possibilité de pluie verglaçante pour ce qui est de demain aussi.
Salutations à tous ceux qui ont mis leurs pneus d'été et qui ont sorti la moto. Hein. Écoute, on vient de le dire à TVA, là, l'hiver vient nous hanter encore.
Oui, mercredi, ce sera une belle journée ensoleillée avec un maximum de plus 1. On reçoit dans les prochaines secondes un être extrêmement courageux, je peux te le dire. C'est le gars le plus courageux de ma fin de semaine. Parce que depuis que je fais de la radio, depuis 2006, il y a un sujet, puis d'ailleurs j'ai commencé la radio en Beauce, là, il y a un sujet qui faisait extrêmement réagir, c'était la gestion de l'offre. Et le food professor a décidé en fin de semaine qu'il écrivait un papier dans la presse et qu'il parlait effectivement de la gestion de l'offre. Je ne sais pas si il est correct, le food professor. Là. Y a-t-il eu des menaces? Comment ça va, Sylvain Charlebois?
Non, cette fois-ci, j'ai poursuivi une menace. C'était quand même rafraîchissant comme approche.
Non, mais c'est un sujet qui est tellement particulier parce que d'un bord, les gens comprennent que le système de gestion de l'offre, ça a été mis en place pour ne pas nuire aux agriculteurs puis même les aider. Là. Mais de l'autre côté, nous, en tant que citoyens, on paye notre lait peut-être beaucoup trop cher puis ça empêche la compétition extérieure aussi. Là.
Ouais, ouais. En fait, ce qui est dommage, c'est que les producteurs de lait, mais pas nécessairement les producteurs de lait, mais la fédération des producteurs de lait, là, parce qu'il y a la différence entre les producteurs qui, eux, à mon avis, sont victimes de la politisation du système. La fédération des producteurs de lait tente toujours de taire à peu près tout. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de critiquer la gestion de l'offre. Si on est cancellé carrément, on veut pas offrir de l'information aux gens, de la bonne information qui puisse juger de la pertinence du dossier, du système comme tel, comme le gaspillage de lait, le prix qui est trop cher, la façon qu'on fixe les prix. Le système est tellement obscur qu'on maintient cette obscurité-là, certainement pourquoi? Pour être certain que les gens savent pas ce qui se passe pour de vrai. Alors, mon biais dans la presse, dans le fond, ce que je démontrais, hors de tout doute, c'est que lorsque les producteurs de lait disent les traités de libre-échange avec les Américains et avec le reste du monde nous font mal, c'est pas vrai, là. Ils font de l'argent avec les traités, parce qu'ils vont à Ottawa pour demander de l'argent et en plus, la valeur de leur quota augmente, là. Mais... Donc, c'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent que les producteurs de lait profitent de cette obscurité-là, du manque de transparence.
Mais l'affaire, c'est que c'est tellement sensible. Il y a eu beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a un patrimoine familial souvent qui est associé. C'est de l'argent qui est en matériel. Donc, si tu ne mets pas à vendre tout ton équipement ou encore tes vaches ou ta production puis tes quotas, ben t'en as pas de cet argent-là. Il est devant toi, mais en machinerie. Il n'est pas nécessairement dans tes coffres. Tu sais, c'est une industrie où c'est sensible parce que émotivement, tout ce que tu as comme financier est pas nécessairement tangible dans ton compte.
Bon, non, effectivement. Mais dans la production porcine, il y a de l'émotion, mais il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota sanctionné par l'État.
Pourquoi d'abord on reste accroché là-dessus?
Parce que ce qui arrive actuellement, puis c'est la raison pourquoi que les producteurs de lait sont sensibles, c'est qu'il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui veulent abolir le système complètement, qui, à mon avis, serait une erreur. Puis il y a aussi le camp des gens qui veulent absolument rien savoir de changer quoi que ce soit. Puis c'est la Fédération des producteurs de lait du Québec. Moi, je me suis toujours situé entre les deux. C'est qu'il faut garder le système de quotas. Mais le système qu'on a actuellement est vraiment, vraiment pas adéquat pour une économie moderne. On a une filiale à terre qui est vraiment, vraiment pas compétitive, là. Si demain matin, on met fin au système de quotas, on perd toutes nos fermes, là. Fait que c'est pas la solution. C'est pour ça que dès que Trump commence à parler de lait, ben les producteurs de lait s'énervent parce qu'ils savent qu'ils sont pas prêts. Fait que moi, ce que je suggère, c'est qu'au lieu de paniquer, de retourner à Ottawa et demander de l'argent, pourquoi qu'on commence pas à travailler sur un modèle qui est plus performant pour sauver nos fermes? Parce qu'actuellement, là, au Québec, il y a 5000 fermes laitières. Si on fait rien, là, Trump ou pas Trump, là, d'ici 2030, on perd la moitié de nos fermes.
Puis, dû au manque de relève?
Ben c'est carrément parce que le système fait en sorte que les producteurs pensent qu'à la production et à un prix qui est correct pour eux. On pense pas à la demande, on pense pas aux consommateurs, on pense pas à rien d'autre que, par exemple, d'obtenir un prix qui est adéquat pour la production. Parlez à un restaurateur, parlez à un artisan fromager. Ils vont vous dire que le lait industriel au Québec est très, très cher. On peut pas développer de nouveaux fromages, de nouveaux produits parce que le coût des intrants est très élevé en raison du système qu'on a actuellement. Alors, tout ce qu'on a, c'est un système qui gère un déclin. C'est pour ça qu'on parle aux fermes.
L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, il y a plusieurs autres États membres de l'Union européenne aussi qui avaient ce même système de gestion de l'offre. Et là, maintenant, dans les dernières années, ils ont décidé de démanteler tout ça. Pour quelles raisons ils ont décidé d'enlever le système de gestion de l'offre?
Parce que ça menait nulle part. Ça menait à un déclin et les prix... au sein du marché sont ils étaient très élevés. Je vais prendre comme exemple la Nouvelle-Zélande parce que les producteurs de lait au Québec disent toujours on peut pas vendre du lait dans le monde, c'est un produit liquide, ça coûte trop cher transporter tout ça. La Nouvelle-Zélande qui est au milieu de nulle part là, au milieu de l'océan, exporte pour 20 milliards de dollars de produits laitiers en Asie et ailleurs dans le monde, même ici même au Canada. Si eux sont capables de le faire avec 3,5 millions de population, pourquoi qu'on ne serait pas capable de faire la même chose? C'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut. Là. Les producteurs de lait, vraiment, ne pensent pas à la croissance, ne pensent pas à comment on peut offrir du québécois au reste du monde. On pense juste à gérer nos affaires chez nous.
Il y a des gens qui nous écrivent « La valeur du quota est la même depuis plus de 10 ans. Elle n'a même pas été augmentée avec l'inflation. Ils ne jettent pas lait non plus. Qui veut produire et jeter son produit à la fin? Le prix du lait va diminuer au Québec, mais on n'en parle jamais. Le transformateur, les épiciers, eux, s'en mettent plein les poches. » C'est des commentaires qu'on reçoit beaucoup depuis le début de l'entrevue.
Oui, ça, c'est des commentaires qui arrivent de la Fédération parce qu'ils nous écoutent. C'est ce qu'ils font, c'est le lobby qui influence l'opinion publique contre les gens qui critiquent le système. Ils savaient que j'arrivais en onde. À chaque fois que je fais une entrevue sur la gestion d'offres, ils sont prêts à envoyer toutes sortes de messages qui sont faux. Jeudi passé, j'étais à Ottawa. Je donnais une conférence sur la gestion de l'offre. Il y avait des producteurs québécois dans la salle, OK? Et il y a un jeune de 20 ans, OK? Il ne savait pas qui j'étais. Je parlais avec des producteurs de volaille, je parlais à des producteurs d'eux. Puis il a avoué, là, c'est un Québécois qui travaille sur une ferme laitière du Québec et a avoué qu'il dompe, qu'il gaspille du lait à chaque mois. Fait que les gens, les producteurs de lait, avoueront jamais, lors d'une émission de radio, dans les journaux, qui dompent du lait, mais ils en dompent à chaque mois. Puis on n'en parle jamais.
L'UPA est extrêmement puissante. Là. Bon, on se rappelle une histoire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce qui est arrivé à Maxime Bernier, qui était à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Il était dans les favoris pour devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada. Et l'UPA a décidé d'inciter ses membres à acheter des cartes de membres du Parti conservateur pour être sûr et certain que ce ne soit pas Maxime Bernier qui passe, parce que Maxime Bernier voulait abolir justement ce système de gestion de l'offre. Je comprends certains politiciens être un peu hésitants là, à faire face à ce syndicat-là qui est très puissant, parce que ça peut signifier tout simplement la fin de leur carrière.
Oh, absolument. Mais j'ai discuté avec Maxime Bernier à deux reprises là-dessus. Moi, je pense qu'il fait une erreur. Pourquoi? Parce que ce que son parti prône, c'est l'abolition d'un système sans plan. Ben, pour venir à votre commentaire, plutôt, il y a un patrimoine qu'il faut préserver. Il y a des familles derrière tout ça. Là.
Ouais.
Il faut que travailler avec eux. Là. On peut pas juste abolir un système. Là. C'est ça qui est... L'approche de Maxime Bernier, elle manque d'une stratégie, d'un plan B. Je lui ai dit, c'est beau prôner l'abolition, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre production domestique? Je suis pas certain que les Québécois aimeraient commencer à boire du lait américain demain matin. Là.
Ben non, puis en plus, ils n'ont pas les mêmes standards que nous, là.
Ben, ils ont pas les, ben, ça, faut encore faire attention, parce que là, ça, c'est encore une carte de l'UPA.
De l'UPA,
qui
ouais.
Toujours, ah, le lait au Québec est supérieur au celui des États-Unis, mais avec aucune preuve scientifique, là. Zéro preuve. Il y a aucune éducation, puis on parle toujours de...
Mais côté pasteurisation et tout, c'est pas la même chose, semblerait-il. Est-ce qu'on se trompe, on se leurre depuis longtemps?
Moi, je vais aux États-Unis. Là. J'ai travaillé beaucoup aux États-Unis. En fait, j'enseigne encore aux États-Unis. Puis les produits laitiers aux États-Unis sont de très bonne qualité.
Moi, j'en bois sans scrupule, j'en bois sans contrainte, sans inquiétude. Mais est-ce que c'est vrai que, mettons, le procédé n'est pas vrai et pas le même? Puis peut-être qu'on est un petit peu plus... Peut-être qu'on est trop aussi strict là-dessus. Mais est-ce que c'est vrai que c'est pas de la même manière qu'on les applique?
Il y a toutes sortes de... La différence fondamentale, puis ça revient tout le temps, c'est qu'aux États-Unis, on a le droit d'utiliser des hormones de croissance. Mais c'est très peu de producteurs qui utilisent des hormones de croissance, et la plupart des le lait qui est utilisé n'est pas utilisé pour la chaîne humaine. Là. Donc c'est pour ça que il faut faire attention, mais souvent, ce que je trouve déplorable des producteurs agricoles, c'est qu'ils sèment la peur. Ils sèment la peur parce que tout ce qui est à l'extérieur de la gestion-là, c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est juste une système différente. Ce qui m'inquiète à moi, c'est qu'en 1972, quand on a démarré le système, il y avait 45 000 fermes laitières. On est rendu à 9 500. Puis on va continuer à en perdre. Et il n'y a aucun plan. Il n'y a aucun plan. Tout ce qu'on a, c'est une filière qui lutte pour sa survie sans nécessairement penser à l'innovation. On a permis les Chinois de bâtir une usine de transformation au Canada qui est à Kingston en Ontario pour faire du lait pour nourrissons. Comment ça que ça arrive au Canada? Les Chinois ont investi au Canada. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui ont pu le faire. Cette usine-là aurait dû être canadienne. C'est ça qui manque.
Ouais, très bon point. Sylvain Charlebois, tu es directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. On t'appelle le Food Professor. Il y a eu un sondage qui est paru dans le Journal de Québec en fin de semaine. Et on parle d'une majorité de Canadiens qui se disent prêts à payer plus cher pour des produits d'ici. Et les résultats du sondage sont juste hallucinants. Est-ce que c'est la première fois depuis le début de ta carrière que tu vois ce type de sondage-là qui mentionne ce type de gens-là qui disent en majorité « Non, non, moi, je suis prêt à payer plus cher pour lutter contre ce qui se fait aux États-Unis. »
C'est quand même hallucinant. C'est quand même juste un sondage, là, on s'entend. Avec un sondage, toutes sortes de choses qui peuvent se passer, mais à 61%, là, c'est quand même beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer plus pour juste éviter un produit qui arrive de l'extérieur. C'est quand même, moi j'appelle ça du patriotisme alimentaire.
Ouais.
Et il est quand même assez fort. Il a toujours été fort au Québec, là, quand même, là, mm-hmm. pour les produits québécois. Les gens recherchent les produits québécois, mais ces temps-ci, là, on le voit, là, que, disons, qu'on gêne moins, là. On veut, justement, on est à la recherche de produits locaux beaucoup plus qu'avant.
Ouais, c'est votre sondage à vous autres. Vous avez réalisé ce sondage-là auprès de 10 000 personnes et c'est 61% des quelques 10 000 personnes qui mentionnent qu'ils sont ouverts à l'idée de débourser entre 10 et 15 % de plus à l'épicerie. Puis comme tu le dis, c'est un sondage concrètement à l'épicerie. Qu'est-ce que ça va donner? Mais moi, ce qui m'impressionne souvent, Sylvain, c'est de voir que les gens ont besoin d'un ennemi commun pour se rallier. Alors que tu sais, moi, je suis à Québec. Quand j'ai des producteurs locaux qui produisent des fraises, exemple, ben, je vais privilégier tout le temps les fraises mm-hmm. de chez nous versus les fraises qui ont fait des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres.
Mais on s'est adapté parce qu'au départ, je veux dire, les prix ne nous permettaient pas non plus toujours de faire des choix en conséquence des produits du Québec. Puis ça devrait être, selon moi, je ne sais pas si c'est le cas, M. Charlebois, mais juste sur les étagères, juste sur les choix qu'on fait de mettre dans les rayons les produits québécois, ils devraient avoir peut-être des demandes moins chérantes. Que ce soit sur les fromages aussi, le ratio de profit est extrême pour les épiciers. Peut-être que pour les produits québécois, on pourrait revoir ces ratios-là, en faire un petit peu moins de profit, mais au préalable, les mettre peut-être à des prix plus intéressants, puis privilégier nos fromages qui sont complets pour la plupart. Même chose avec les fruits et légumes, même chose pour les choix d'étalage. Tu sais, il y en a qui doivent payer des surplis pour afficher un endroit. Sinon, l'épicerie va la mettre à un endroit qu'ils vont choisir. Mais si tu veux être dans la vitrine X ou au bout d'une rangée, il faut que tu payes un surplus. Ça, peut-être qu'on pourrait... Je ne sais pas s'il faut passer une loi. Je ne sais pas comment on peut l'encourager. Ça reste un choix de l'épicier au privé, mais on devrait se rallier un peu.
Ben, moi, je vais souvent au Québec. D'ailleurs, je vais être à Québec mercredi. Là, et puis, je vais souvent dans les épiceries. Puis moi, je trouve que les épiciers au Québec font un effort là, pour faire la promotion. C'est quand même assez facile de trouver des produits québécois.
Ça a beaucoup changé.
À bon prix, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais quand même, on donne au moins accès aux consommateurs de trouver des produits québécois. Quand même assez facilement.
Est-ce qu'il y a une tranche de la société qui sont susceptibles d'être plus impactées par les coûts à l'épicerie? Bon, nécessairement, les gens qui sont pauvres, là, on sait, ça va être un petit peu plus difficile pour eux dans les prochaines semaines, les prochains mois. Les gens plus âgés, peut-être les baby boomers, eux, est-ce qu'ils sont susceptibles de voir leurs factures exploser?
Ce qu'on a remarqué dans le sondage, c'est que les boomers sont, disons, plus interpellés à acheter local que les plus jeunes. Normalement, les boomers, ben, ils ont moins de dépenses. Ils peuvent dépenser plus en alimentation. Et les menaces de Donald Trump, j'ai l'impression qu'ils ont affecté plus les boomers que les autres. C'est sûr que la plupart du monde ont été affectés, mais les boomers ont été influencés à un point tel que ça les a forcés à changer leurs habitudes de consommation à l'épicerie. Mais certainement que moi, je pense que les plus jeunes, on devrait commencer à penser à la génération Z de plus en plus parce qu'ils vont prendre de plus en plus de place. Puis je ne sais pas si les jeunes sont vraiment sensibilisés par l'achat local autant que les autres. Parce que c'est une génération qui est influencée par les réseaux sociaux beaucoup plus. Et puis, on internationalise ce forum-là. Et puis, je ne sais pas s'il y a vraiment une sensibilité par rapport à l'achat local. Fait que ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, que les entreprises en agroalimentaire vont devoir réfléchir. Ouais.
Mais de ma génération, moi j'ai 30 ans, je sais que c'est très, 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 très priorisé. Surtout dans les grands centres. Là, quand on parle de Montréal, quand on parle aussi de Québec, c'est quelque chose qui se vaut, puis c'est même quelque chose qui est beaucoup mis sur les réseaux sociaux. Je parle pas de collaboration avec des entreprises. Là. T'sais, ils vont mettre de l'avant, que ce soit en restauration des produits ou des agriculteurs ou tout ce qui est nouveau dans l'agriculture aussi, des fermes. Il y en a qui vont vouloir aller consommer directement. Il y a comme un regain de vie. Je sais pas, par contre, pour les plus jeunes. Je sais pas si ça a suivi.
Ouais. C'est plus difficile parce que en plus les plus jeunes gagnent moins normalement, là, ils font moins d'argent. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que des fois il y a des produits locaux qui sont plus chers. Mais ils sont pas toujours plus chers en passant. Hein. On a fait un projet avec Aliments du Québec l'année passée. On avait évalué le panier québécois par rapport à un panier international. Là. Puis le panier québécois était quand même compétitif. Il y avait 134 différentes catégories de produits. Sur 134, 57%, le produit québécois était compétitif quand même. Là.
Tellement à mettre de l'avant, ça, là.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens de regarder l'option québécoise parce que vous allez être surpris. Là. Puis des fois, le delta, on parle de quelques sous. Là. On parle de 5 % ou moins. Là. Mais des fois, ça vaut peut-être la peine de considérer le produit local simplement parce que, bon, c'est pour encourager nos producteurs, encourager nos transformateurs aussi.
Mais ça aura pris le gros orange qui aura fait en sorte qu'on a un ennemi commun contre qui lutter maintenant. Fait qu'on met l'accent sur les produits locaux le plus possible. Sylvain Charlebois, là, t'es de passage à Québec cette semaine. T'es-tu en Nouvelle-Écosse présentement?
Oui, je suis en Nouvelle-Écosse présentement, oui.
Il va encore de la neige?
Ouais. Ah non, on n'a jamais de neige, là, pas comme nous autres. Là. C'est vert, c'est de la pluie à mort. Mais je m'en vais à la Citadelle. Je vais recevoir la médaille Charles III, la médaille de coronation Charles III pour mes services. Fait que je vais rencontrer votre lieutenant-gouverneur.
Ah, c'est très cool, c'est très cool. Y a-tu une médaille là, qui va être donnée par l'UPA à un moment donné? Ça va-tu arriver, ça?
J'attends toujours ça. J'attends d'être invité à leur congrès. On sait jamais.
C'est toujours un plaisir.
Parfait, bye-bye.
Bye-bye. L'excellent Sylvain Charlebois, qui est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. C'est le Food Professor. C'est un gars qui parle régulièrement de bouffe. Franchement intéressant. La gestion de l'offre, le Pascal, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Depuis 2006 que je parle de ça à radio à chaque année. Puis depuis 2006, il y a des agriculteurs qui nous écrivent en disant « Hey, les amis, sérieux, là, on n'est pas milliardaires. Puis ce que vous dites là, là, c'est pas tout à fait ça. » Puis de l'autre côté, il y a des experts comme Sylvain Charlebois qui dit OK, mais ils vous disent pas toujours la vérité.
Mais il y en a qui roulent vraiment pas sur l'or.
C'est des gros lobbies.
Qui en arrachent, mais d'autres, oui.
Puis tu l'as dit tantôt, c'est des terres ancestrales. C'est la
terre
de ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père. Puis tu veux conserver ça. Puis là, ils vivent pas richement, ces gens-là.
Non.
Peut-être que leur terre vaut beaucoup de millions, mais eux autres, au day-to-day, c'est assez compliqué de boucler la boucle à chaque mois.
Ils n'ont pas ça dans les poches, puis tu sais, le revendre, là, Yannick. Là.
Fait que de perdre leur acquis, il n'y a pas personne qui veut perdre ses acquis, mais comme Sylvain Charlebois le mentionne, puis je trouve ça franchement intéressant. Parce que tu sais, Maxime Bernier, j'ai longtemps cru que ce gars-là, un jour, pouvait avoir un peu plus de bon sens que ce qu'il y en a là. Je trouve qu'il l'a échappé des dernières années avec ses histoires de drag queen et tout ça. T'sais, à un moment donné, concentre-toi sur ce qui touche réellement les gens. Là. Ce que Sylvain Charlebois a expliqué à Maxime Bernier, c'est « OK, gestion de l'offre, on peut travailler là-dessus, mais supposons que tu l'enlèves, il reste quoi à nos producteurs laitiers? T'sais? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les producteurs laitiers vont être mieux sans gestion de l'offre qu'avec la gestion de l'offre? »
C'est toujours à ça qui
ça
est
prend
à
une
considérer.
Explication.
Mais oui, mais c'est parce que c'est de la politique rendue là. Ce que Maxime Bernier faisait, c'est de la politique. C'est de l'achat de votes selon une certaine vision des choses, puis on va aller défendre et ou être scandalisé par quelque chose. Avec cœur, parfois moins de cœur, je parle pas juste de Maxime Bernier, je parle de la politique en général. La chose sur laquelle il faut se pencher aussi, c'est la préservation de ces terres-là. Il y a eu beaucoup de gens à l'étranger qui ont voulu les acheter. C'est eux qui ont le budget. Quand tu parles de plusieurs millions pour une terre, quand tu parles de plusieurs millions pour de l'équipement, des quotas à racheter qui sont en haut de des fois des milliers et des milliers de dollars, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on y tient à un point où il faut la protéger? Est-ce que la gestion de l'offre est encore la clé dans tout ça? Il y a eu des reportages dans la semaine verte, je pense qu'il y a 5-6 ans, super intéressants sur des fermes d'ici, là, mettons même à l'Ange Gardien, à 15 minutes là, de la station actuellement et autres. Puis des gens qui, mentalement, sont complètement détruits parce qu'ils ne voient pas le bout puis ils ne voient pas comment est-ce qu'il va y avoir une pérennité. Quand tu n'as pas de relève aussi, ça devient extrêmement difficile. Tu n'as pas d'acheteurs québécois ou très peu qui vont avoir ces sommes-là pour te permettre de rentabiliser sur quoi tu as travaillé toute ta vie, tu sais, qui est sûrement, entre parenthèses, ton fonds de pension, ta retraite et autres, puis tu veux pas la démanteler non plus dans des foires. Il y en a beaucoup qui vont le faire, mais c'est crève-cœur.
C'est pour ça que c'est un sujet sensible. Ben c'est vraiment sensible. T'sais, un jeune agriculteur là, t'sais, de 25 ans qui reprend les terres de ses parents, je veux dire, trouver une conjointe, là, c'est tough en sacrifice, là, parce que 16 jours sur 7, 24 heures sur 24, t'es tout le temps d'office.
Mais ce qui est intéressant, par contre, puis c'est niaiseux, là, mais quand t'écoutes L'amour est dans le pré, là,
ouais.
Mais t'as quand même des exemples de fermes qui ont eu une passation avec des jeunes. Puis là encore, il faut que les jeunes veulent travailler, là, sur la ferme, là. Moi, j'ai ma meilleure amie, là, ferme laitière, les deux premiers travaillent dessus, trip, passion, capote, ils font des investissements, ils ont développé. L'autre m'a dit une affaire rendue fiancée avec un gars de Nashville, puis c'est une carte de mode, parle pas de la ferme, elle n'aurait jamais été la personne qui l'aurait repris.
Faut être faite pour ça, mais tu sais, t'as 25 ans, t'es un gars, tu reprends la terre familiale, puis là, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu rencontres une fille, il faut que tu lui dises c'est quoi ton quotidien. Je veux dire,
mais il y en a qui aiment ça.
Ouais, je comprends.
C'est pour ça que j'allais à L'amour est dans le pré. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a de la modernisation dans tout ça.
Un gars qui fait du 8 à 5, là, il est disponible à 5 heures. Là.
Ah, mais quand t'as des vaches en plus, c'est que ton trait, c'est entre 10 et 12 heures de différence, je pense.
T'as le premier train qui est très tôt le matin, puis t'as l'autre train qui est, mettons, en mi-soirée.
Mais tu peux le faire le midi, si tu veux, ton premier. Mais il va falloir que tu te lèves dans la nuit, par exemple, pour faire ton deuxième. Parce que c'est ça. De mémoire, c'est entre 8 et 12 heures de différence entre tes deux traits.
Ah non, c'est tough. Là. Fait que c'est ça. Le gars qui est célibataire, il finit à 5 heures. Puis l'agriculteur qui est célibataire, il finit jamais. Mm. J'ai rencontré un couple d'agriculteurs, moi. Il était dans la cinquantaine. Il était marié depuis 30 ans. Il était beau à voir. C'était la première fois de leur vie qu'ils voyageaient.
Ben oui, je te crois.
Essaye de dire à une fille que tu rencontres qui a 20 ans, « Hey, on voyagera jamais! »
Mais il y en a qui sont capables.
Sont
encore, les employés de ferme, de façon sporadique, sont très, très rares. Là, les former, c'est une autre affaire. Il y en a aussi qui aiment ça, être sur leur terrain, puis faire ça de leur vie, puis qui n'ont pas envie de voyager. Il y en a qui sont casaniers, mm-hmm. qui ne voient pas pourquoi les gens voyagent.
Est-ce qu'il y a une majorité de filles autour de toi qui rêvent d'être avec un gars qui travaille 7 jours sur 7? Là?
Moi, là, dit de même non, mais sur une ferme, ça me fascine comment il y a un retour à la tâche,
okay.
Je te dis,
mais Pascal, on va prendre les CV.
Non, l'affaire, c'est ça.
418-971-1021, les gars.
Je ne suis pas de cette traite-là.
On en a trouvé une.
Je ne suis pas de cette traite-là.
Vous avez plus besoin de pêcher dans le lac avec une bombe, là. On a Pascal qui est là.
Mais sais-tu quoi?
Quoi? Pour faire l'amour et dans le pré, Pascal.
La joke, la plus grosse joke de ma dernière année, c'est un de mes amis qui m'avait inscrit, sans mon consentement, que je le sache, à l'amour et dans le pré France. En Europe. Je sais pas si c'était en France, mais c'était en Europe, puis j'avais reçu la réponse comme quoi.
T'es accepté?
Oui!
C'est vrai?
Je l'haïs tellement.
T'as été cute avec tes bottes à douille?
Ah oui, avec des Français.
Rose!
Des fermes françaises.
T'arrives sur la ferme.
C'est une émission française!
T'arrives sur la ferme avec tes bottes à douille roses, puis tes grosses lunettes fumées Versace, là.
Le gars, Yannick, là, pour petit cœur, là, je pense pas qu'il avait déjà frenché quelqu'un, là.
Regarde, la réalité te frappe, là, oui. Par texto. Salut, ici, je vis la situation inverse. La petite Audrey qui va revenir demain. Je suis en train d'enregistrer son podcast Sextape. C'est donc bien important, ça, le podcast Sextape, pour qu'elle m'abandonne demain.
En même temps, quand est-ce que tu veux qu'elle l'enregistre?
La nuit. La nuit.
Tu sais, elle fait l'open mic, gravel en retour, la préparation de ça.
Elle fera comme les vieux couples. Elle fera l'amour à 22h un dimanche soir.
Ouais, ben là, moi, j'irai pas demander comment ça se passe, mais je sais que son chum travaille le matin très, très tôt. Là.
Ah,
là,
c'est peut-être. C'est de même ça se passe.
Peut-être, mais c'est pas de nos affaires.
Au contraire, c'est le genre de sujet qui nous intéresse. Hey, ça vous tente de passer une belle soirée. J'ai quelque chose pour vous autres. Ça va avoir lieu le 21 mai prochain. Je donne le texto tout de suite, 418-971-1021, 418-971-1021. C'est pour aller voir Cypress Hill avec leur tournée canadienne au Cannabis 2025 qui va être en spectacle à l'Agora du Port de Québec. Ça va être tout un spectacle. Les invités spéciaux, c'est De La Soul et Farside. Donc, ne manquez pas Cypress Hill en concert. Les billets sont disponibles sur evenco.ca. Donc, par texto, 418-971-1021. Juste m'écrire Cypress Hill sans faute. Puis Pascal va analyser tout ça et attribuer la paire de billets qu'on a à vous faire tirer. Je ne sais pas si hier, tu étais très alerte sur les réseaux sociaux. Moi, je voyais une panique généralisée sur les réseaux sociaux.
Hey, à se demander quelle tragédie est arrivée.
Je ne suis pas très, télé québécoise. Puis des fois, je te retarde. Mettons, tu sais, la série avec les policiers, il y avait...
19-2?
19-2. J'ai écouté ça quand c'était rendu disponible sur Netflix et j'ai adoré. J'écoutais pas ça à la télé chaque, je sais pas, c'était-tu le mardi soir, j'écoutais pas ça comme ça.
C'était pas genre, religieux, là.
C'est ça, j'ai pas de religion par rapport à la télé en direct. Et hier, je me suis dit, voyons, mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? C'est carrément Star Academy qui a éclipsé tout le monde, là, en n'étant pas là pour diffuser la finale. Donc, qui a gagné? C'est-tu Catherine qui a gagné ou c'est Mia? Ça a coupé. Il y a eu le speech de Pierre-Carl Péladeau, de ce qu'on m'a expliqué. Et par la suite, il y a eu une pause de 30 secondes où on était supposé annoncer la grande gagnante parce que c'était deux filles qui étaient finalistes. Finalement, elles ne sont jamais revenues.
Hey, la panique générale! Ces réseaux sociaux, c'est comme si, je sais pas moi, il y avait quelque chose qui avait sauté dans le centre-ville de Québec.
Oui.
Moi, ça me fascine, ça.
Le gros orange était disparu des réseaux sociaux pendant 30 secondes.
Je comprends que, émotivement, quand t'es dans une série que t'es impliqué, tu sais, moi, ça m'est arrivé Game of Thrones, j'étais en voyage en Californie, puis je m'étais arrêtée quand même pour écouter l'épisode en temps réel tellement je trippais. Par contre, s'il y avait eu un bug quelconque, est-ce que je me serais mis à me désorganiser sur les réseaux sociaux, à envoyer promener HBO?
Mais c'est parce que c'est le punch!
Je comprends, c'est épouvantable. Comme quand t'écoutes une série, puis à la fin, t'as une attache, puis t'as le goût d'écouter le prochain épisode, puis là, tu te rends compte que ça fait 4 heures que t'es là-dedans. Mais c'est toujours bien juste un problème technique au mauvais moment.
Ouais, c'est un coït interrompu. Oui. Les gens étaient vraiment fâchés. Puis ça touchait beaucoup la région de Québec, puisque la grande gagnante est de la région de Québec. Son nom, Mia. C'est Mia Tiner. T-I-N-A-Y-R-E. Je ne sais pas comment on le prononce, là. Tiner.
16 ans seulement.
16 ans. Écoute, la voix, je vais te faire entendre sa voix. Là. Moi, je vous le dis, Star Academy, je n'écoute pas ça.
Oh, mais ça, ça n'a pas de bon sens.
Le dernier, c'était le Boutillier, là.
Wilfred?
Oui, oui, c'est ça. Ouais. J'avais écouté ça.
Ah, j'ai écouté ça quand j'étais jeune aussi.
Ma blonde plate du moment.
Ah, franchement.
T'écoutes ça avec moi, sinon t'auras pas de sexe.
Ben oui, c'est sûr, c'est ça qu'elle disait.
Je me tapais le Star Academy au grand complet pour être sûr d'en avoir.
Yannick, mais pauvre elle, petite victime.
16 ans, elle a une voix hyper mature.
Au-dessus de la ligue.
Ce qu'elle chantait hier, Pascal, ce n'était pas une chanson facile.
Est-ce que la campagne...
T'as peur, c'est pas ça que je vais vous faire entendre. On va juste le tasser de là. Voilà. Je l'ai dessus ici. Parfait. On pèse sur le piton morceau.
Ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone est trop bon, le jazz et moi. Quand on s'est donné le... Il ne manque plus que des trompettes et puis voilà. Ça me cogne dans les doigts.
Et
puis elle a le sens du spectacle sur la scène, là, aucune gêne, elle y va, là, puis elle se donne. Puis ça fait toute la différence aussi quand quelqu'un est capable de performer physiquement sur une scène.
Sa mère, elle avait la gueule à terre.
Ben, j'ose croire. On est omnibulé.
Ah non, mais c'est une machine. C'est une clair star, et net que dans les prochaines années, elle va faire carrière en chanson. Je veux dire, 16 ans, puis pas avoir froid aux yeux de même.
C'est une bonne affaire quand ces artistes-là, parce que c'est des artistes, on s'entend, là, gagnent une télé-réalité comme ça qui est associée à une entreprise. Je t'explique. Là.
Les gens, ils font-tu vraiment la différence?
Les contrats là, sont tellement... Puis c'est correct. Il leur donne une plateforme incroyable avec des millions de téléspectateurs.
T'es attaché pendant une couple d'années, de ce que
puis
je comprends.
Solidement. Ouais. Solidement. Même Occupation double. Le jeu de dating où tu freines.
D'après moi, à 25 ans, il devrait sortir de prison.
Je sais pas, mais Marie-Mé, ça avait été tout un combat.
Ouais, puis elle a réussi. Oui. C'est une qui a bien ressorti du lot. Puis
c'était pas la gagnante. Pas, gagné, pas c'est du ça. Tout. Elle était éliminée bien avant des finalistes.
Mais elle, c'est une fille de Québec, 16 ans. Puis, tu sais, j'écoutais ça ce matin. Puis, j'en revenais pas. J'écoutais le je l'écoutais au complet. T'sais, d'habitude, je l'écoute 30 secondes, puis après ça, je vous en parle à radio, puis je vous fais entendre l'extrait. Mais là, je l'écoute au complet du début jusqu'à la fin. C'est une showgirl incroyable. Mm-hmm. Puis je suis persuadé que dans les prochaines années, on va en réentendre parler, puis de voir ses parents. T'sais, on dirait qu'on est plus sensible quand on devient parent là, avec ce qui arrive aux enfants des autres. Là. Chaque fois qu'il se passe de quoi, t'as tout le temps le goût de pleurer, là, que ce soit de joie ou aussi de peine. Puis à la toute fin de la prestation de Mia, on voit sa mère qui en revient juste pas que sa fille a été capable de faire un rendu comme ça de cette chanson-là.
Pis sûrement que c'était son rêve à sa petite fille aussi. Fait que là, écoute, moi, c'est sûr, j'aurais braillé. J'aurais été une amie de loin de Mia, puis j'aurais braillé.
Ah non, c'est
ça me fait brailler. Quelqu'un qui est bon, puis qui vit son rêve sur une scène de même, là. Pas grand-chose qui vient pas me chercher.
C'est à plus petite échelle, quand ton gars, il joue au hockey, puis il fait son premier but à vie, t'as juste le goût de brailler. De
ah non, moi, ça sera pas drôle, là, le grand lavabo. Là.
Ouais.
Moi, je vais être le grand robinet. Écoute, je suis allée à la comédie musicale là, de Broadway du Roi Lion. J'ai pleuré toute la première demi-heure. Je veux dire, une affaire, je connaissais personne là-dedans. Là. Quand c'est beau, c'est émotif, tu vois le travail humain qui a été fait derrière ça. Puis là, Mia a 16 ans. On n'a jamais entendu parler de cette jeune femme-là.
Non.
Ni d'Ève, ni d'Adam. Puis elle gagne Star Academy. J'ai hâte de voir si ça va se rendre loin, par exemple. Pour la suite des choses, ça va être une Charlotte Cardin qui va travailler par elle-même et réussir, ou ça va être une machine de marketing? Ça, je trouve ça toujours triste.
On va se le souhaiter, mais là, elle va justement, elle va augmenter ses réseaux sociaux. Oui. Son Instagram va exploser, son Facebook va exploser, son Spotify va exploser. Puis elle va être propulsée par la belle gang de Québécois. Fait que oui, là, à un moment donné, elle va pouvoir être capable de voler de ses propres ailes. Mais à 16 ans, tu dois être accompagnée quand même, je pense. Hein.
Oui, assurément, pour ton parcours, parce que c'est gros quand même. Là. Elle va être reconnue par... Et les gens étant beau maudit qu'il y a eu un problème technique, inquiète-toi pas que s'ils la croisent dans la rue, ils vont se désorganiser aussi.
Non, non, mais c'est vraiment un coït interrompu qui est arrivé. Puis là, les gens étaient fâchés sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a permis de savoir les gens qui écoutaient Star Academy. Tu sais, des gens dans mon réseau qui écoutaient Star Academy. Là.
Ouais.
Ouais. Fait que maintenant, je peux plus les juger.
Mais sais-tu ce que la maman de Mia a dit, par contre?
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle dit que sa fille l'inspirait, oui, mais que quand elle la voit aller, ça la ramène beaucoup à ce qu'elle aurait aimé devenir. Puis là, mon cerveau est parti dans une autre table.
Ouais, mais sa mère devait chanter à la maison.
Peut-être,
elle devait triper.
Oui.
Sa petite fille s'est intéressée au chant, puis elle l'a suivi au travers de ça. T'sais, je veux dire, quand ton gars atteint la Ligue nationale de hockey, je pense que tous les jeunes garçons qui tripaient sur le hockey voulaient un jour atteindre la Ligue nationale de hockey.
Mais ça tu fais-tu attention à ça, toi? Mettons, tes rêves, de ne pas les imposer à tes enfants. Et... Je dis pas que c'était pas son rêve, Amy, pas du tout. Tu la vois sur scène.
Quand j'ai vu que mes gars avaient le même talent que moi au hockey, là...
Ouais.
On n'a pas pensé à la Ligue nationale.
T'es pas allé plus loin.
Non, non,
tu vas-tu leur dire en face un jour ou tu les laisses encore dans le...
J'espère qu'ils vont réussir à trouver leur compte là, dans le hockey. Jusqu'à maintenant, ils trippent à mort. Les deux évoluent à la position de défenseur. Et je trouve que c'est une super de belle position.
Oui.
Ouais.
On va rester là. T'aurais aimé tes jeunes soient bons dans quoi?
Qu'ils soient de bons humains, tout simplement. Tu sais, je veux juste qu'ils soient de bons êtres humains puis qu'ils réussissent à bien gagner leur vie.
Ouais, c'est bizarre. J'entendais... J'aurais jamais deviné que t'aurais voulu ça.
Non, mais j'entendais ce matin l'accès à la propriété. Mm-hmm. Je sais pas où j'ai entendu ça. Si tu es à télé ou si tu es à radio, je sais pas. Mais, tu sais, moi, mes gars, là, ils ont 9 ans puis 11 ans. Je regarde le prix des maisons. Je côtoie des jeunes de 20 ans et de 30 ans qui regardent pour acheter leur première maison. Et c'est un rêve qui est impossible pour eux actuellement.
Mais toi, avec tes actions à la bourse, tu vas peut-être pouvoir les aider dans quelques années.
Pas aujourd'hui.
Ça va remonter.
Pas aujourd'hui. Ouais.
Hey, parlant des États-Unis, juste, on ne sait pas trop ce qui se trame, mais peut-être que Donald Trump ferait un gel sur les tarifs, en fait, pour les prochains jours. La Chine, par contre, en mangerait une claque quand même. Mais il n'y a rien qui a été encore validé là, par des sources sûres. Mais c'est ce qui est en train de se jaser.
Donc, voilà. OK, 11h20, nous autres, on s'arrête là-dessus. On vous laisse avec Caravane Maxime sur les zones de boulevard. Puis Marceau le midi va recommencer dans les prochaines minutes, vers les alentours de 11h30. Denis Gravel va être là vers les alentours de midi. Puis Valérie est pas là aujourd'hui. Valérie Gaudreau, es-tu là aujourd'hui?
Oui, c'est Nicolas qui n'est pas là. Nicolas Gagnon va être là mercredi, mais Valérie Gaudreau, journal Le Soleil, chroniqueur et tout, va être avec nous parce qu'elle était au rassemblement de sa maman en fin de semaine.
Voilà.
Le futur maire de Québec, à ce qu'on en croit les rumeurs?
Oui, je sais pas. J'ai l'impression que le vote va être énormément divisé. Là. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vont voter pour sa maman. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour le maire en place. Stéphane Lachance, il y a des gens qui vont voter pour lui. Le parti de Patrick Paquet, c'est pas annoncé encore, mais il va se joindre à sa maman. J'en suis pas mal persuadé. Mais il va y avoir une dilution du vote. Là. Fait que pour ceux qui pensent que le maire Marchand, ça va être à 100% sûr que c'était son seul mandat, je suis un peu hésitant. J'ai hâte de voir les sondages qui vont confronter tant sa maman que le maire Marchand. Parce que j'ai l'impression que ça va être une chaude lutte en raison du fait qu'il y a d'autres partis qui sont autour pour lesquels il y a des gens qui vont voter. Là. OK. 11h21. On revient.